Vous êtes sur RTL.
8h.
RTL Matin, Yves Calvi.
Le journal avec Jérôme Florin. Bonjour Jérôme.
Bonjour Yves, bonjour à tous.
Le gouvernement sort ses fiches contre la radicalisation.
Les préfets reçoivent ce matin une circulaire indiquant les bonnes pratiques à adopter contre les comportements suspects.
À 8h20, notre invité, le secrétaire d'État auprès du ministre de l'Intérieur, Laurent Nunez.
Dans l'actualité également, c'est Normands qui disent non au débarquement américain d'Amazon. Le maire de Monteville dans le Calvados refuse l'entrepôt et ses promesses d'emploi. Une décision que certains ont du mal à comprendre.
Il y a beaucoup d'industries qui ont fermé depuis plusieurs années sur la région. Donc ces 150 emplois, je pense qu'ils auraient été bien pour notre région.
Et puis, salariés des médecins, permet-il de lutter contre les déserts médicaux? Ce sera la question du 8h. La région Centre-Val de Loire s'apprête à en embaucher 150. C'est une première.
Jusqu'à 9h30, RTL Matin.
Comment repérer ces signes de radicalisation qui peuvent parfois mener au terrorisme? La question n'est pas nouvelle, mais les réponses qui en découlent sont désormais fixées noir sur blanc dans un document, une circulaire qui sera remise dans une heure à tous les préfets de France réunis au ministère de l'Intérieur. Un débit de boissons qui n'accepte plus les femmes, des écoles coraniques suspectes, le moindre signal d'alerte devra être pris en compte. Et c'est souvent un casse-tête pour les élus, pour les maires qui ne savent pas comment réagir. Des formations avec des spécialistes sont organisées, comme ici à Aix-en-Provence. RTL en immersion, Pauline de Saint-Rémy.
Comment les reconnaître? Comment les reconnaître?
Des questions.
Pourquoi ce qui est possible en Belgique n'est pas possible à Aix-en-Provence?
À Aix-en-Provence comme ailleurs, les conseillers municipaux n'en manquent pas.
J'ai l'impression qu'on réalise des choses et que ça mute, que le terrorisme radical mute et que nous, on n'est pas à la même vitesse.
Ce jour-là, ils sont une vingtaine et sous le regard des comtes de Provence et des rois de France qui recouvrent les murs de la salle du conseil municipal, ils s'inquiètent surtout du manque de moyens alloués par l'État.
À un moment donné, je pense qu'il serait bien qu'on redonne des moyens au terrain pour qu'on ait des réponses plus réactives. La police de sécurité du quotidien, pour ma part, petit élu de terrain, c'est déjà trop tard. Je ne suis pas armée, on est plus dans la prévention.
Et une chose en particulier inquiète, le fait pour les élus municipaux de ne pas avoir accès aux fiches S qui concernent leurs administrés. Alors les trois ex-députés se répartissent les rôles et l'ancien juge d'instruction issu des Républicains, Georges Fenech, compatit.
C'est vous qui êtes au contact des réalités. Nous sommes allés à Molenbeek, en Belgique, et nous avons rencontré Madame la Bourgmestre qui nous a montré la liste de toutes ces administrés radicalisés que lui communiquait régulièrement le commissaire de police. Moi, elle pouvait en tirer les conséquences.
Le socialiste Sébastien Pietrasanta, spécialiste des questions de renseignement, propose un éclairage théorique.
L'absentéisme scolaire dont je vous parlais est un signal faible. Quelqu'un qui fait des recherches sur Internet sur comment se procurer une arme, c'est un signal fort.
Venu en voisin de Marseille, le truculent Patrick Menucci, ex-rapporteur d'une commission d'enquête sur la surveillance des djihadistes, se charge, lui,
en référence aux croisades,
du rappel historique.
Au Cachemire, et puis il va faire le fameux attentat des tours jumelles de New York. C'est à la fois la fin d'une affaire, celle d'Al-Qaïda, et le début d'une autre, celle de Daesh. En gros, c'est ça, si vous voulez, le pitch.
La formation aura duré 6 heures sans pause, le temps pour ces élus de vider leur sac à coup sûr, pas forcément celui de se constituer un véritable mode d'emploi.
RTL en immersion, signé Pauline de Saint-Rémy.
Vous avez compris l'importance de toutes ces questions et nous en débattrons à 8h20 avec notre invité Laurent Nunez qui est le secrétaire d'État auprès du ministre de l'Intérieur.
RTL Matin, 8h04.
Pro et anti-réforme des retraites comptent leurs troupes à une semaine de la grève du 5 décembre.
Les syndicats, d'un côté, comme ici à Rennes avec ses militants de Force Ouvrière.
Cette bagarre, elle est absolument fondamentale. Les gens en face de nous sont des gangsters. Et ça sera très difficile de faire croire ou de laisser penser que le syndicalisme sert à quelque chose encore si nous ne nous lançons pas résolument dans cette bataille.
Un propos recueilli par Patrice Gabart, syndicat d'un côté donc, gouvernement de l'autre, avec un Édouard Philippe chargé de regonfler le moral de ses équipes, William Galibert.
Ça va être le bordel généralisé, je ne vois pas comment ça peut bien se passer. C'est un ministre qui parle du 5 décembre et qui illustre bien le pessimisme d'une partie du gouvernement. Alors c'est Édouard Philippe qui est chargé de remotiver ses troupes. Première étape demain à Matignon, réunion avec les ministres directement concernés par la grève, comme le ministre des Transports. On va voir comment se présentent les choses et tout ce qu'on peut anticiper, explique un conseiller. Deuxième étape, dimanche, toujours à Matignon. Là, c'est tout le gouvernement qui est convoqué et on passe à la vitesse supérieure. On va caler à nouveau le rôle de chacun, indique un proche du Premier ministre. On va reprendre le béaba sur les retraites, trouver les mots simples pour que tout le monde, dit-il, soit capable de porter cette réforme. C'est une bataille de communication qui commence. ordre de squatter les plateaux télé et les radios. Il faut une mobilisation totale. Les Français ne supporteraient pas un sentiment d'indifférence, décrypte un conseiller du pouvoir. À nous, conclut un élu, de faire entendre notre voix au milieu de celle des grévistes.
William Galibert, et notez que la SNCF a déjà fermé les guichets entre le 5 et le 8 décembre. Il n'est plus possible de réserver un TGV, un Ouigo ou un Intercité pour ces dates-là. L'entreprise veut favoriser les clients qui ont déjà acheté un billet. Une litanie d'escroqueries destinée à détourner de l'argent public. C'est ainsi que les procureurs ont qualifié les campagnes de l'ex-Front National. En 2012, le parti avait distribué des kits clés en main à ses candidats aux législatives. Des kits vendus beaucoup trop cher pour l'accusation qui parle d'un système de surfacturation. L'État réclame 11 millions d'euros. Une attaque politique pour le député du Nord, Sébastien Chenu.
Je pense que l'État, et à travers lui, en fait, le gouvernement, cherche à se débarrasser du Rassemblement National. Ils n'arrivent pas politiquement à nous contrer. Alors, ils ont décidé d'essayer de nous contrer par une autre voie qui est celle qui consisterait à nous ruiner. C'est une demande absolument délirante de l'État. Il y a une manœuvre politique.
Sébastien Chenu avec Marie Mollet. 7 proches de Marine Le Pen sont jugés dans cette affaire. 2 ans de prison ferme ont été requis contre Frédéric Chatillon, le patron de la société qui vendait ses kits de campagne. Les corps des 13 militaires français tués au Mali seront rapatriés en fin de semaine. L'hommage national aura lieu lundi aux Invalides. Il sera présidé par Emmanuel Macron. Des élèves de Pau et de Gap, les villes des 2 régiments les plus touchés, seront présents aux côtés des familles des victimes. Le cardinal Barbarin de retour devant la justice. L'archevêque de Lyon avait été condamné à 6 mois de prison avec sursis pour ne pas avoir dénoncé les abus d'un prêtre pédophile. Il est aujourd'hui jugé en appel de cette condamnation.
RTL Matin, il est 8h07.
On a encore franchi un cran cette nuit dans les tensions qui divisent Washington et Pékin.
En cause, une loi soutenant les manifestants de Hong Kong. Elle a été votée la semaine dernière au Congrès américain et promulguée il y a quelques heures par Donald Trump. Une provocation pour les autorités chinoises qui ont convoqué l'ambassadeur des États-Unis à Pékin. Bonjour Philippe Dova.
Bonjour.
Vous êtes notre correspondant à Hong Kong. La Chine réitère ce matin ses menaces de représailles.
Oui, ici à Hong Kong, le gouvernement local a pris acte de cette signature par Donald Trump avec tristesse et un profond regret en accusant Washington d'ingérence dans ses affaires intérieures et de très mauvais messages envoyés aux manifestants. Du côté de Pékin, les propos sont beaucoup moins diplomatiques et c'est la colère qui domine. Le gouvernement chinois a fermement dénoncé un texte soutenant les actes commis contre, je cite, d'innocents citoyens qui ont été frappés, blessés et brûlés par des criminels violents et menacés de prendre des mesures de représailles. Des représailles qui pourraient se traduire par un arrêt pur et simple des négociations commerciales entre la Chine et les États-Unis au moment même où les deux pays étaient sur le point de conclure un accord.
Philippe Dova.
Dans un instant, ces Normands qui disent non, non pas aux Romains, mais aux géants Amazon. Ben les Normands, faut pas les énerver. Hein. C'est fini, Sainte-Mère-l'Église. Allez, à tout de suite.
RTL 8h08.
Bonjour, alors voici RTL Matin.
RTL 8h09, la suite du journal Jérôme Florin, Yves Calvi.
C'est un débarquement américain dont cette fois-ci les Normands ne veulent pas.
Mondeville, dans le Calvados, sa mère refuse l'implantation d'un entrepôt d'Amazon. 10 000 mètres carrés et surtout 150 emplois à la clé. Mais c'est une annonce en trompe-l'œil pour l'élu qui affirme que pour un emploi créé, au moins 2 sont détruits dans le commerce traditionnel. Nous sommes allés sur place pour prendre la température. Les avis sont divisés, vous allez l'entendre. Reportage de Frédéric Veil.
C'est sur ce terrain de 50 000 mètres carrés situé au pied du boulevard périphérique de Caen qu'Amazon veut s'implanter avec la promesse de 150 emplois nets créés. Valérie, au chômage, ne comprend pas que la mer s'y oppose.
Il y a beaucoup d'industries qui ont fermé depuis plusieurs années sur la région. Donc ces 150 emplois, je pense qu'ils auraient été bien pour notre région. Donc je ne comprends pas cet avis.
Thierry, qui habite tout près, lui, comprend le point de vue de Madame le maire qui dénonce aussi la concurrence déloyale qu'imposerait le géant américain.
C'était justement une bonne idée de favoriser du coup les entreprises locales et pas forcément du coup une grande entreprise américaine. Non, c'était un bras de fer intéressant qui risque potentiellement de perdre malheureusement, mais elle essayait de faire son possible pour freiner, ce qui est déjà une bonne chose.
Oui, car malheureusement, la municipalité comme la communauté urbaine ne pourront pas grand-chose contre l'implantation d'Amazon qui fait peur aux commerçants de Mondeville. Guillaume Caillot tient une boutique d'articles de cuisine.
Déjà, le e-commerce fait souffrir énormément les commerces comme nous par rapport à rien que des délais de livraison ou le catalogue proposé. Donc c'est sûr que on ne voit pas ça d'un bon oeil, non, complètement.
Après Chartres et Tremblay en France, Mondeville est la troisième commune française à s'opposer à l'implantation d'Amazon.
Frédéric Veille.
Et on attend bien entendu la réponse et la réaction du patron d'Amazon France, qui sera notre invité demain à 7h20 dans la matinale d'RTL.
Quand une région se met à recruter des médecins, c'est qu'elle est cruellement en manque. C'est le cas de la région Centre-Val de Loire, qui est la toute première à le faire. On est là au cœur d'un des plus grands déserts médicaux de France. La collectivité va salarier 150 médecins d'ici 6 ans. Son président, François Bonneau.
Nous disons à ces jeunes médecins, venez en tant que libéraux, venez en tant que salariés, nous vous proposons l'un ou l'autre des systèmes. On vous aidera pour le logement, on vous aidera pour l'emploi du conjoint ou de la conjointe, on vous aidera pour la crèche du petit s'il y en a un. Il peut y avoir un déficit de 10 à 15 000 euros par médecin. C'est si c'est le prix à payer pour un aménagement juste du territoire, je crois qu'il faut le payer.
Propos recueillis par Christian Panvert.
Alors, une région qui recrute des médecins, ça se fait déjà dans de nombreuses communes et départements. Est-ce efficace pour lutter contre les déserts médicaux? Eh bien, c'est la question de 8 heures.
Avec vous, Jacques Serret, bonjour.
Bonjour.
Salarié des médecins, est-ce que ça marche?
Oui, clairement, ça attire les praticiens aujourd'hui. Le salariat a bien des avantages que n'a pas le statut libéral. Fini les journées à rallonge, place aux 35 ou 39 heures. Ils peuvent ainsi mieux concilier vie professionnelle et vie de famille. Et puis fini aussi la solitude du médecin de campagne. Les communes ou les départements ouvrent des centres de santé. Pour les praticiens, plus d'administratifs à gérer. À la fin du mois, ils touchent leur salaire, le plus souvent indexé sur celui de la fonction publique hospitalière. Si l'on regarde par exemple le cas de la Saône-et-Loire, eh bien, c'est une réussite. Ce département avait perdu 28 médecins généralistes entre 2013 et 2017. En un an et demi, une quarantaine ont été embauchés.
Est-ce que ça va suffire à résoudre le problème des déserts médicaux?
Une commune française sur trois serait un désert médical. Le salariat ne résout pas le fait qu'il manque des médecins. Ces centres de santé ont parfois du mal à recruter malgré leurs efforts pour se rendre attractifs. Et puis, ce modèle économique est critiqué. C'est une solution temporaire, pas pérenne. Nombre de ces centres de santé sont en déficit et cela pèse sur les finances publiques. Les syndicats de médecins aimeraient plutôt de la part de l'État des efforts sur l'exercice de la médecine libérale.
La question du 8h avec Jacques Serret.
Le football, Lyon compromet ses chances de qualification en Ligue des Champions, battu par le Zénith Saint-Pétersbourg 2-0. L'OL devra absolument rebondir le 10 décembre contre Leipzig. De son côté, Lille, qui jouait pour l'honneur, n'a même pas pu faire oublier son élimination après sa défaite 2-0 face à l'Ajax Amsterdam.
On termine en beauté avec l'histoire du jour.
Oh oui, un homme inculpé au Canada. Il avait de bien curieuses occupations. Ces derniers jours, il a passé son temps à jeter, pardon pour ces détails à l'heure du petit déjeuner, jeter des excréments sur des passants et des étudiants à Toronto. Trois attaques en moins d'une semaine perpétrées à l'aide d'un seau dont la police a eu pour mission d'analyser le contenu exact. Alors je vous le donne, le nom de cet agresseur particulier, Samuel Opoku.
Ce qui est merveilleux.
Je vous assure que c'est vrai.
Opoku. Ce qui est merveilleux, c'est que vous êtes avec un cas, hein, comme ouais. Kléber. Ouais. Vous êtes un enfant, ça continue de vous faire rire, c'est ça qui fait mon bonheur.
Ça vous fait rire, vous?
Évidemment que ça me fait rire. C'est le journal de Jérôme Flora.
Nous sommes tous des enfants.